toutes, bonjour à tous. Nous voilà donc pour une émission un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va œuvrer avec trois journalistes de renom. J'ai nommé Guillaume, le G de girafe.
Bonjour.
Fred, le F de girafe, et R le...
Bonjour à tous et à toutes.
Et Raph, le R de girafe. Donc on a une chance toute particulière ce matin. J'ai eu la chance d'être invité à pouvoir participer à cette exposition Les scènes collectionneurs et mécènes. Et on va rentrer dans la vie de deux personnages très importants autour de cette exposition, que sont Géraldine Lefebvre, qui est la directrice du musée. Bonjour Géraldine.
Bonjour, merci.
C'est un plaisir. Et Michel Debris, qui est le
co-commissaire de l'exposition.
Co-commissaire de l'exposition. Donc on a vraiment la chance d'avoir les deux protagonistes de cette superbe exposition. Donc je vous le disais tout à l'heure que j'ai eu le plaisir de suivre. Alors on va commencer, comme toutes ces interviews, par une rapide présentation. Donc Géraldine, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient directrice du MUMA au Havre et quel a été ton parcours ?
Alors oui, donc je vais revenir sur ce parcours qui est un parcours passion. C'est vraiment, alors on commence par des études. Alors pour le coup, moi j'ai commencé par de la littérature puisque j'ai une maîtrise de lettres modernes à Paris. Puis ensuite j'ai orienté. Je me suis orientée vers l'histoire de l'art et notamment vers l'école du Louvre, en reprenant l'école du Louvre à ses débuts, parce que je me suis dit, il ne faut rien que je rate, il faut que je reprenne l'histoire de l'art à ses débuts, depuis l'Antiquité, les mondes antiques jusqu'à nos jours. Et j'ai été spécialiste pendant des années de mosaïques paléo-chrétiennes en Syrie et Jordanie.
Ah oui, on voit très bien ce que c'est.
Voilà, vous voyez très bien. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça m'a passionnée pendant 4 ans. Hein, voilà. Avant de me recentrer sur le 19e et sur des sujets donc liés au 19e, à l'impressionnisme et à l'histoire des collections aussi très rapidement, parce que ça a été vraiment un sujet de recherche, le sujet de ma thèse de doctorat qui a été consacrée au cercle de l'art moderne, donc un sujet vraiment à vrai. Qui montrait en fait la place très importante de la ville du Havre à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En fait, c'était une ville de culture, une ville extrêmement dynamique, une ville de grands collectionneurs, une ville qui a organisé des expositions de peinture moderne, de musique moderne. La modernité rimait vraiment avec cette ville du Havre au début et au tournant du 20e siècle, grâce notamment à des artistes. Bien sûr, je pense à Dufy, Braque, Friez, qu'on connaît bien ici au Havre, mais aussi de très grands collectionneurs, parmi lesquels Olivier Seine, sur lequel donc on va revenir avec ce projet d'exposition. Mais ces grands collectionneurs, donc c'est Olivier Seine, Charles-Auguste Maran, dont l'histoire est très liée également à celle du musée Malraux, du MUMA, par l'important legs qu'il a fait en 1936 au musée, mais aussi des hommes comme Pieter van der Velde, Georges Duseuil, Léon Pédron, toutes ces personnalités havraises qui ont fait fortune dans le négoce du coton, du café, et qui, au même moment où ils faisaient fortune, ils ont acheté, mais comme des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés acheter de l'art ancien, ils ont misé sur les jeunes, ils ont misé sur l'art moderne, sur l'art contemporain, et ils ont constitué de fabuleuses collections, puisque l'exposition que nous montrons aujourd'hui et qui ouvre dans quelques jours au public, le 16, ce samedi, en est un parfait exemple, c'est-à-dire montrer cet esprit d'entreprise, c'est-à-dire oser dans l'art aussi bien que dans l'entreprise, puisque il faut bien comprendre une chose que j'aime bien rappeler, c'est que en fait le Havre était une place boursière et une place d'entrepôt, et en fait on venait au Havre pour faire fortune. Et on venait voir pour la fortune rapidement, pour le commerce et rapidement. Et donc on a affaire à des négociants, de grands négociants. Et ces négociants, Olivier Seine en faisait partie, et il y a toute cette histoire. On aura l'occasion de revenir
un petit peu plus tard. Donc tu fais l'école du Louvre. Donc pendant 4 ans, tu te passionnes pour les collectionneurs.
C'est ma thèse de doctorat, c'est mon sujet. Le cercle de l'art moderne et les grands collectionneurs du Havre. Donc je montre l'importance de la place du Havre par rapport à Paris, par rapport à Bruxelles, par rapport aux grandes villes artistiques de l'époque, justement avec ce faisceau de collectionneurs et d'artistes qui viennent au Havre.
L'école du Louvre, c'est 5 ans ?
L'école du Louvre, c'est 4 ans, plus éventuellement un troisième cycle. J'ai choisi de ne pas le faire à l'école du Louvre, je n'ai fait que les deux premiers cycles. Et ensuite, j'ai poursuivi à l'université, à Paris-Nanterre.
D'accord. Et après, tu reviens à Wavre.
Non, en fait, ma thèse de doctorat, elle se fait en parallèle de mon travail au musée, puisque je suis rentrée en 2004 au musée, au moment où la donation Sandfold s'annonçait. Donc, pour moi, c'est un retour aux sources 20 ans après, hein, en quelque sorte, puisque j'ai été l'adjoint du conservateur Annette Oduquet pendant 10 ans à peu près. Et donc, j'ai eu la chance immense, d'arriver au moment où la donation Sandfold s'annonçait. Donc de travailler à la documentation, à la recherche autour de cette importante donation.
Donc ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, ça rejoint passion et patience, parce qu'il y a eu un fil rouge qui était ces collectionneurs, et tu es donc au début, et à la fin, ça ne s'arrête jamais, mais en tout cas, cette exposition fait partie de ce chemin-là.
Absolument, absolument. Parce que je suis rentrée finalement en 2004 au musée avec justement un projet autour du cercle de l'art moderne qui est devenu au fil du temps donc ma mémoire de DEA. À l'époque, c'était le DEA, Master 2. Et puis ensuite une thèse de doctorat. Mais ça s'est fait en parallèle des recherches au musée. Donc finalement, mes recherches universitaires ont permis de venir nourrir aussi le travail que nous faisions ici au musée en termes de publications, la publication des peintures de la collection d'Olivier Sen en 2005, ensuite la publication des dessins de la collection d'Olivier Sen en 2011, et tout ça en parallèle des travaux de recherche qui finalement se nourrissaient mutuellement. Et donc c'est très intéressant, et je dirais que aussi un des aboutissements pour moi et un moment fort de ma carrière, ça a été également en 2012-13 l'organisation d'une exposition sur le cercle de l'art moderne, donc vraiment sur mon sujet de thèse de doctorat au musée du Luxembourg à Paris. Et là, dans le cadre de cette exposition, où la ville du Havre était très bien représentée, les collections du musée également, bien sûr, mais d'autres aussi collections, puisque le sujet, c'était vraiment de montrer le cercle de ces collectionneurs havrais, c'est-à-dire Olivier Sen et les autres grands collectionneurs, et de faire dialoguer, justement, les œuvres de ces collections. Si Olivier Sen a acheté, par exemple, un très beau Renoir, le portrait de Nil Lopez, en 1907, quelques temps après, on voit Marande s'intéresser aussi à Renoir et acheter également une femme de Renoir, l'excursionniste. Et puis, au même moment, Pieter van der Velde a acheté aussi un très beau portrait de femme par Renoir. Donc, en fait, ces collectionneurs à vrai, qu'on commence à bien connaître, ils ont été présentés en 2012 dans une exposition au Luxembourg. Donc ça, c'était vraiment un aboutissement important. Et ensuite, j'ai réorienté ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2018. Hein. C'est un long, long process, une thèse de doctorat. Hein. J'ai travaillé, vous voyez, je suis rentrée en 2004, je l'ai soutenue en 2018.
Bon, oui, ça fait un peu de temps. Oui.
Ça fait beaucoup de temps, mais en même temps, alors normalement, c'est sur un temps un peu plus court, mais je travaillais en plein temps. Hein, donc voilà.
Mais c'est un vrai travail de recherche.
C'est un vrai travail de recherche. Donc je menais au moment des vacances, au moment, vous voyez. Donc il y a aussi ce côté-là. Je n'avais pas tout mon temps pour travailler sur ce projet.
Mais j'ai une question avant qu'on enchaîne sur Miguel. Quand tu parles du terreau normand sur ces collectionneurs, est-ce qu'on a la même chose? Est-ce que le fait d'être un port, tu le disais tout à l'heure, le commerce amenait des collectionneurs? Est-ce qu'à Marseille, on a la même chose? Est-ce qu'on a... Donc finalement, c'est un peu ces portes d'entrée qui sont... Enfin, je ne sais pas si on retrouve la même chose.
Absolument, c'est une question très très intéressante parce qu'effectivement, les villes portuaires, tu cites Marseille, mais en fait, il y a Nantes aussi, ont été des villes qui se sont ouvertes à la modernité avant les autres. On aurait d'autres exemples dans une province plus agricole ou enfin je veux dire plus terrienne mais en général les ports étaient vraiment très très ouverts à la modernité, ne serait-ce que par les flux, par l'ouverture. Le Havre, mais c'est le cas aussi de Marseille, a accueilli beaucoup de gens de l'extérieur. En fait, quand on parle du cercle de l'art moderne, je ne mentionne pas la bourgeoisie locale. On parle vraiment de grands négociants qui arrivent des quatre coins du monde. Oui, ces négociants en question, ils viennent de Liverpool, ils viennent de Suisse, ils viennent du sud de la France d'ailleurs, ils sont passés par Marseille, ils sont en général passés par les ports. Et donc oui, c'est très intéressant, mais à Marseille, on a vu la même chose, parce qu'il y avait aussi des grandes foires internationales où on exposait à la fois les dernières innovations maritimes, mais également les derniers travaux artistiques. Donc ces grandes foires internationales, elles présentaient la modernité, et souvent elles se situaient dans les ports. On en a eu au Havre, on en a eu à Marseille, on en a eu à Nantes. Et donc, oui, ce sont les villes portuaires sont très, très ouvertes à la modernité.
Alors, on va passer maintenant, Michael, tu vas donc nous parler un peu aussi de ton parcours. Tu es donc le co-commissaire de cette exposition. Donc, on voudrait savoir un peu qui est Michael et comment tu es arrivé à développer cette exposition aux côtés de Géraldine.
Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de finance.
Ah, j'ai commencé, pourquoi ça mène à tout.
J'ai commencé comme contrôleur de gestion pendant 9 ans quasiment. Et puis après, j'ai pris en charge l'aspect administratif du conseil municipal ici au Havre pendant 6 ans. Et comme je m'ennuyais ferme dans ce que je faisais, j'ai repris des études en parallèle en histoire de l'art. Donc en menant vie professionnelle et vie d'étudiant en même temps. Et jusqu'au Master 2 à Paris 4. Voilà.
D'accord, donc c'est une reconversion finalement.
C'est une reconversion totale, oui.
Une reconversion passion.
Exactement.
Donc voilà, et ça c'était en quelle année ?
J'ai dû finir mon Master 2 quand on a su qu'on attendait le troisième enfant, donc en 2019.
D'accord, donc tu es un local de l'étape et le dernier à arriver, mais finalement tu viens apporter tout le soutien à Géraldine dans cette démarche et tu prends, j'allais dire, le train en cours, mais enfin bon, finalement
on se connaissait déjà un petit peu au cours de ma reconversion. Effectivement, j'avais été passé quelques jours ici au musée, j'avais déjà rencontré Géraldine à l'époque.
D'accord. Alors, on va faire, avant de passer aux questions un peu plus culturelles, pour terminer, on va quand même faire un petit point sur justement ce que tu développais sur cette exposition et sur, on a un peu parlé du sujet sur ces collectionneurs. Je l'ai suivi ce matin, j'étais impressionné par l'histoire et j'ai trouvé passionnant le fait que vous commenciez par la généalogie, puisque finalement, ça permet à des gens qui ne connaissent pas grand-chose comme moi d'être très vite immergés dans un monde. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cette famille? Et l'histoire de cette collection et cette exposition.
Alors oui, ça a été aussi absolument passionnant pour nous, puisque très rapidement, avec Michael, on s'est rendu compte qu'on connaissait fort mal la famille Sen. On avait mis à l'honneur Olivier Sen, on avait 4 photos de lui. Bon, c'est peu de choses, 4 photos. On avait très peu d'informations sur sa femme, pas de portrait, sur ses enfants, sur ses frères et sœurs. Et on s'est dit, voilà, l'histoire d'une famille de collectionneurs, c'est un homme, bien sûr. Là, en l'occurrence, Olivier Sen est le personnage principal, c'est le grand collectionneur. Mais il y a aussi toute cette famille qui est autour, qui vit avec les œuvres, qui hérite des œuvres, qui transmet les œuvres, qui transmet l'histoire. Et donc, on s'est plongé dans la généalogie. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, bien Olivier Sen déjà avait épousé Hélène Siegfried, donc c'est une grande famille du Havre, hein, et il épouse une nièce de Jules Siegfried, donc en 1892. Olivier Sen et Hélène donc ont 3 enfants, un fils aîné, Ernest, une fille ensuite, Alice, et un dernier garçon, Édouard. Le fils aîné meurt à la guerre de 14, et donc reste vivant Alice, sa fille, et son fils Édouard. Hélène Senfoulds, qui est la donatrice de cette importante donation, en 2004, est l'unique descendante aujourd'hui d'Édouard. Mais on ne connaissait rien de la famille d'Alice, qui était devenue Alice. On savait très peu de choses. Et donc, on s'est rendu compte qu'Alice avait épousé un membre de la famille Ruffnac, Rodolphe Ruffnac, qui était d'ailleurs un ami de son frère aîné. Un homme qui était soldat, militaire, qui a été blessé à 5 reprises pendant la Première Guerre mondiale, a vraiment payé un lourd tribut. Et en fait, quand arrive la guerre de 40... Alice décide avec toute sa famille de partir vivre aux États-Unis. Ils passent par le Canada, ils arrivent à Montréal, ils sont plus ou moins accueillis par des cousins éloignés, puis ensuite les voilà à New York. À New York, ils sont d'abord dans une pension de famille avec tous les enfants, il y a 5 enfants quand même. Hein.
C'est, Alice, c'est donc
la fille d'Olivier Sen.
Et donc la mère d'Hélène, la donatrice.
Non. C'est la tante.
Ah, la tante, tout à fait.
Voilà. Hélène est la descendante d'Édouard.
D'accord.
Mais on ne connaissait pas l'autre partie de la famille. Et ce qui était important pour nous, il fallait rencontrer cette famille américaine. Pourquoi ? Parce qu'on est parti avec Michael d'un constat très simple. Quand Olivier Sen décède en 1959, eh bien la collection, elle a été séparée entre ses 2 enfants vivants. sa fille Alice et son fils Édouard. Et donc, comme nous, nous avions accueilli...
La moitié,
on s'est dit, il y a peut-être au moins autant d'œuvres du côté américain. Donc là, on a une certaine excitation en tant que chercheur, historien de l'art. On se dit, voilà, il y a sûrement plein de choses à découvrir. Et puis une histoire aussi à découvrir. Le parcours de ces gens, on n'avait rien.
Il n'y avait aucune information
Non. Au départ, on n'avait quasiment rien. Quelques informations généalogiques, puisqu'on parle de généalogie. Vie, mort, parcours américain. Mais le parcours américain, il fallait le reconstituer. Et en fait, ça a commencé, donc on a commencé à poser des questions à Hélène, à son fils, Christophe Carvelissen, et puis on a eu le nom des cousins un jour, et puis les premiers mails, etc. Puis on a commencé à envoyer des mails, à prendre contact, à échanger.
C'est un vrai métier de détective.
C'est un vrai métier de détective, et c'est ce qui est passionnant aussi en histoire de l'art, c'est que c'est pas que l'histoire des tableaux, en fait l'histoire des tableaux c'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire des hommes qui sont derrière. Les tableaux, ça s'interpénètre à une histoire humaine qui est très riche.
Oui, des rencontres d'artistes naissants.
Voilà. Et de collectionneurs. Donc, on a comme ça remonté au départ un fil très ténu. Et puis ce fil, il est devenu très présent. Ils sont même devenus très présents dans nos vies, je dirais. Parce que dans ce cas-là, ils s'animent pour nous, ils prennent vie, on reçoit des photographies, on reçoit des lettres, on reçoit le journal intime d'Alice en plein été. Alors que c'était un peu tard, on avait presque fini nos textes, et on se dit, on va avoir plusieurs nuits pour lire le journal intime, parce que là, enfin, beaucoup de choses vont se dévoiler à nous. Donc cette recherche, elle est absolument passionnante, et elle nous permet d'écrire une page d'histoire oubliée. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est de faire revivre des gens, l'histoire de personnalités, et l'histoire d'une collection qui, en 59... la moitié de la collection est partie aux États-Unis. Et en 59, Alice, elle vit en Arizona, parce qu'elle a des problèes d'arthrite, absolument. Et en fait, le climat sec, désertique de l'Arizona, lui soulage énormément ses problèmes d'arthrite. Il faut savoir que Raoul Dufy est parti en Arizona, à Tucson, justement, pour se faire soigner son arthrite, son arthrose. Donc, en fait, Alice vit là-bas, avec ses enfants. Certains sont restés à ses côtés, d'autres ont bougé, ont déménagé. Et donc la collection en 59, une partie de la collection part aux États-Unis.
Et tout ça, c'est tracé parce que c'est une question qu'on se posait aussi. Quand tu as 205 œuvres et qu'on est collectionneur, est-ce qu'on a une obligation de répertorier ces œuvres ou on en fait ce qu'on veut ? C'est-à-dire que c'est intéressant. Alors là, je pose peut-être la question commissaire.
C'est peut-être le métier de commissaire qui s'occupe de ce genre de choses. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le métier de commissaire, finalement ?
Juste pour répondre à la première question, s'agissant d'une collection privée, effectivement, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, la collection a évolué au fil des années. Olivier Sen lui-même a vendu des œuvres. Parfois, il en a racheté après les avoir vendues. Et puis, son fils lui-même a fait évoluer la collection. Il a vendu plusieurs œuvres de Maurice Denis, qui était un des peintres fétiches d'Olivier Sen. Il a continué à acheter des œuvres qui ont été assimilées à tort à la collection d'Olivier Sen. Je pense à un paysage de Matisse. Mais non, effectivement, la collection a évolué tout au long des années.
Oui, donc ça se vend, mais on a une traçabilité.
On a une traçabilité partielle à partir des documents qu'on a pu récupérer auprès de la famille, notamment des factures d'achat ou de vente, des factures de commissaire-priseur, etc.
Qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition.
Qui sont exposés pour partie, effectivement. Après, effectivement, c'est une vue partielle de l'évolution de la collection.
Donc, alors, on pourrait imaginer qu'il y en ait plus de 400. Clairement. Si on imagine 205.
On est à plus de 500.
On est à plus de 500 œuvres aujourd'hui. On a fait un appareil d'annexe assez important et on a essayé de faire un état des lieux de cette collection initiale, enfin de cette collection Sen, et on est autour de 500 œuvres. Donc on a retrouvé beaucoup d'œuvres qui ne sont pas toutes dans chez les descendants, bien sûr, hein, mais aussi pour vraiment reprendre sur cette question en fait de l'état des lieux de la collection. Il y en a à différents moments. Michael citait les factures d'achat, mais il y a par exemple tout au long de la vie d'une collection, si on peut parler de vie d'une collection. Il y a des œuvres qui sont prêtées à des expositions, qui reviennent, il y a des œuvres qui sont revendues, des œuvres qui sont données à des amis de la famille, ou qui sont revendues également. Mais il peut y avoir
elles
aussi...
Elles font plus partie de la collection dans ce cas-là.
Alors, dans ce cas-là, elles sortent de la collection, mais elles ont fait un moment partie de la collection. Donc, pour nous, elles sont intéressantes. Elles sont œuvres de la collection. Mais il y a aussi des états des lieux. Par exemple, au décès d'Olivier Seyde, en 59, il y a un inventaire après décès. Puisqu'il faut, de toute façon, séparer la collection entre les deux enfants vivants. Donc, à ce moment-là, il y a un inventaire après décès que nous avons pu consulter. Et cet inventaire après décès, il donne un état des lieux de la collection à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes nos œuvres, mais on a un état des lieux. Et puis après, il y a, en fonction de la vie, des moments, quand les œuvres sont parties aux États-Unis, il y a eu un autre état des lieux. Donc voilà, cette collection, au fil du temps, elle a évolué. C'est ce qu'on essaye de montrer vraiment dans ce catalogue.
Oui, il y a une partie de la collection qui n'a pas été soumise au problème de la guerre, et l'autre, oui, par exemple. Le 39-45 qui était forcément des éléments, je ne sais pas comment ça se passe dans ce moment-là, mais...
Je dirais...
Alors, au moment de la guerre, de toute façon, les collections n'étaient plus au Havre.
Ah, d'accord.
Olivier Seyde avait déménagé à Paris au début des années 30, et après, pendant la guerre, la famille Seyde est en Suisse.
D'accord, donc ça a été protégé.
Oui, absolument, les œuvres, elles sont, de ce côté, elles n'ont pas été détruites, elles n'ont pas été, vraiment, la collection est intacte. Après, on connaît maintenant beaucoup de choses sur les œuvres qui ont été données, revendues. Ce travail qu'on mène depuis un an a permis de poser cette question de l'autre partie de la collection. Nous, la donation, tout était parfaitement connu, étudié, répertorié, jusqu'à l'arrivée et l'entrée au musée. Puisque à partir du moment, une collection, alors elle a une vie toujours interne au musée, mais si vous voulez, à partir du moment où elle intègre un musée, une collection publique française, la collection, elle est inaliénable et elle reste collection du musée. Donc après, ça ne peut être que des expositions. Voilà, on n'a pas de système à l'américaine. Hein. Nous, la collection reste au musée. Après, elle peut voyager, elle peut être prêtée. C'est comme ça aussi qu'on apprend d'ailleurs souvent beaucoup de choses aussi sur les œuvres, hein, quand elles sont exposées dans une exposition sur un sujet, une rétrospective Bonnard, et qu'on présente le Bonnard de la collection Seyde. Souvent, on a d'autres éléments qui peuvent apparaître. Donc cette vie des œuvres, bien sûr, elle se poursuit dans les musées, mais il y avait aussi pour nous tout cet aspect de la collection que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire toutes ces œuvres qui étaient parties aux États-Unis et qui avaient eu une vie propre. Et il y en a un certain nombre qui sont présentes dans l'exposition aujourd'hui.
Et donc, ça veut dire, avant qu'on passe à d'autres questions, qui là vont plus tourner autour du MUMA en général, pour terminer peut-être sur cette collection Seyde, si demain le MUCEN souhaite faire de ces expositions, l'ensemble de ces œuvres appartiennent bien au patrimoine du musée, donc de la ville du Havre.
De la ville du Havre, oui.
D'accord, donc c'est vraiment quelque chose que l'on prêtera, mais c'est ce que tu disais, inaliénable. On pourra aller en faire la promotion partout dans le monde, mais toujours avec un dépositaire que sera la ville du Havre. Donc c'est un vrai...
Absolument, et en fait, le MUMA est une entité, ville du Havre. Cette collection Seyde, mais les collections en général impressionnistes du musée, pour parler un tout petit peu du MUMA et des projet pour le MUMA, parce que moi je suis arrivée au mois de janvier au MUMA, et les projets que nous allons mettre en place avec l'équipe, c'est vraiment de faire connaître ces collections dans le monde entier. Ça, c'est un de mes projets très importants, et on y travaille avec Michael, Clémence, enfin toute l'équipe, pour faire connaître nos chefs-d'œuvre à l'étranger. Ça part d'un constat très simple. Quand on présente une grosse exposition comme celle-ci, il y a une grande partie des collections qui sont en réserve. Quand on présente un projet comme Photographie en Normandie cet été, tous nos chefs-d'œuvre impressionnistes étaient en réserve. On se dit assez judicieusement qu'il serait peut-être bien de les présenter au public italien, au public chinois ou au public japonais. Donc c'est ça qu'on est en train de commencer à mettre en place, et on commence par un très beau projet au M9 Mestre-Venise. Donc c'est la ville de Mestre qui touche vraiment Venise, et le M9 c'est le Bilbao vénitien, hein, qui a été créé il y a quelques années. Et donc on va au mois de mars prochain ouvrir une exposition de chefs-d'œuvre du MUMA, MUMA Ville du Havre.
Donc le MUMA est un ambassadeur du Havre à l'étranger.
Ah ben tout à fait, tout à fait.
Par le biais de l'art. D'ailleurs, ça, c'est peut-être on va peut-être pouvoir basculer maintenant sur une question.
En fait, moi, ma question initiale a été pour Mickaël. On parlait de la mise en place de cette exposition et du métier de commissaire. Et j'aimerais savoir en quoi ça consiste, le métier de commissaire d'exposition. Donc en fait, on a une petite idée à travers ce dont on vient de parler, mais peut-être que ça va beaucoup plus loin que ça.
Le travail de commissaire, c'est un travail scientifique de recherche pour constituer le corpus déjà des œuvres qu'on va présenter dans l'exposition, définir le propos de cette exposition, pourquoi on veut faire cette exposition, qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette exposition. Et donc, pour dérouler le propos, on choisit des œuvres. Et puis après, effectivement, c'est un travail de recherche, de rédaction, d'articles pour le catalogue, notamment.
Les œuvres, des œuvres qu'on a déjà dans sa collection ou des œuvres qu'on va aller chercher?
Les deux. C'est vrai qu'en général, dans les musées, on s'attache à partir des œuvres de nos propres collections. Mais évidemment, ce ne serait pas très intéressant de montrer quelque chose qu'on montre déjà en temps ordinaire. Ouais. Donc là, effectivement, on a voulu ouvrir l'exposition à des œuvres prêtées par des musées. Ici, le musée d'Orsay, le musée de Centre Pompidou, le musée de Giverny, le musée de Troyes qui nous prête, la fondation Guggenheim à Venise aussi. Dans cette exposition, une soixantaine de prêts sur les 260 œuvres exposées.
D'accord. Et comment on choisit les thèmes des expositions qu'on va aborder, qu'on va effectuer?
Alors,
est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui ou est-ce que c'est par hasard ou par des rencontres?
Là, vous avez tout à fait raison. Quand vous parlez de tendances, bien sûr, par exemple, tout simplement en ce moment, on parle beaucoup des femmes artistes. Donc ça c'est une tendance et à juste titre et c'est très intéressant de remettre à l'honneur les femmes artistes. Il y a un blog, site internet qui s'appelle Aware, qui travaille d'ailleurs c'est vraiment absolument passionnant, qui depuis des années, depuis Elle Pompidou, c'était une exposition des artistes femmes dans les collections de Pompidou qui a eu lieu il y a des années, et depuis ce moment-là, les commissaires de cette exposition ont créé un site internet qui répertorie toutes les femmes artistes du monde. Bon, c'est devenu quelque chose de très important pour tous les musées. Et nous, on se penche aussi sur les femmes artistes de nos collections. Donc, on va probablement aussi en présenter de plus en plus, se faire un travail vraiment sur ces femmes. Donc ça, c'est une tendance.
D'accord.
Pardon.
Voilà. Et ça, c'est à travers déjà la collection dont dispose le musée.
Alors là, c'est dans nos collections. C'est-à-dire que tous les musées ont tendance à retravailler sur leurs femmes, artistes. Et nous, on participe de cette tendance. C'est-à-dire que ça se fait aujourd'hui dans les grands musées. Il y a eu beaucoup d'expositions d'artistes femmes. On n'a peut-être pas suffisamment parlé d'elles dans le passé. Et donc, il y a vraiment un mouvement de reconnaissance des artistes femmes que je trouve très intéressant. Et on a décidé, nous aussi, de se pencher sur cette question de nos artistes femmes au sein des collections pour pouvoir les mettre à l'honneur. Alors, on n'aura peut-être pas suffisamment d'œuvres pour en faire des expositions, mais on passera peut-être par du numérique, on passera peut-être par plein de choses. Bon. Mais pour revenir aussi sur votre question très intéressante sur la programmation du musée. La programmation du musée, elle se fait... Alors, il y a deux choses. En général, c'est le directeur, la directrice du musée qui va proposer une programmation à la ville, au maire, qui vont accepter cette programmation ou pas. D'ailleurs, on peut en discuter, tout est discussion. Et donc, quand je suis arrivée en janvier, j'ai proposé une programmation pour les 10 ans à venir du musée. En parallèle de cette programmation, il va y avoir un projet scientifique et culturel qui va être établi avec l'équipe du musée, mais aussi en concertation avec les élus, avec l'administration, et avec le maire. C'est-à-dire
c'est toujours un temps long, d'ailleurs.
C'est toujours un temps long, et c'est jamais quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin.
Oui, on n'est jamais indépendant complètement, en fait.
On est indépendant, mais on impulse, on échange, on interagit, on écoute aussi les autres, parce que c'est aussi très important. On n'a pas la science infuse, donc c'est toujours un travail d'équipe et de... Et donc ça, c'est une de mes missions. Ce projet scientifique et culturel, mais quand je dis une de mes missions, c'est une de mes missions avec mes équipes et avec la ville.
Et c'est inhérent à ta fonction.
Oui.
C'est-à-dire que tu sois directeur de musée ici à Paris
tout
ou
à fait. Que
sais-je, vous avez tous, ça fait partie de votre fonctionnel de poste.
Oui, absolument.
D'accord. Très bien. On a une question maintenant sur...
une question ou deux, peut-être.
Peut-être. Ouais, on va en brancher sur d'autres questions.
Parce que le sujet est passionnant.
Parce que le sujet est passionnant, mais on ne voudrait pas abuser trop de votre temps non plus, qu'on sait précieux. Non, on a aussi le sujet de Fred, qui est sur l'interculturel, et c'est la transmission des savoirs.
Et la transmission des savoirs. Alors, je voudrais, si vous me le permettez, quand même revenir à un début de vos propos. Il y a un élément qui m'a interpellé, c'est sur justement le début de la constitution de ces collections par ces personnes fortunées de l'époque. Et vous avez parlé d'un premier acquéreur, notamment d'une œuvre de Renoir, qui a enchaîné sur l'acquisition d'un autre Renoir par un autre acquéreur. Quelle est la psychologie qui existait entre ces gens-là? Est-ce que c'était de la concurrence ou alors de l'émulation positive ou c'était d'essayer d'avoir la même œuvre que son concurrent ou son voisin? Ça fonctionnait comment?
Je pense qu'il y a tout à la fois. En fait, ce sont des personnalités, il faut imaginer. Mmh. Ce sont des personnalités fortes. Ce sont des personnes qui, en fait, à la fois... étaient extrêmement doués dans leurs affaires, ont compris tous ces mécanismes des affaires, les marchés à terme. Olivier Sen, par exemple, il a fait une thèse de droit qu'il a axée sur les marchés à terme en coton.
D'accord.
Pensez bien que c'était la personne idéale pour reprendre la maison Siegfried, qui va devenir compagnie cotonnière. Ouais. Il a tout compris du mécanisme des marchés à terme. C'est quoi, grosso modo, le marché à terme? Ça veut dire qu'au Havre, il y avait une fonction d'entrepôt et une bourse. À partir du moment où on peut entreposer le coton, on peut faire varier son cours et on peut le faire monter surtout.
Et c'est la négociation, bien sûr.
Et c'est la négociation. Mmh. Donc, en fait, ces hommes, ces entrepreneurs...
Ils ont transposé leur savoir-faire.
Exactement. Voilà, ils l'ont transposé, mais ils étaient aussi amis, ils se connaissaient. Alors, ils étaient peut-être aussi concurrents dans les affaires.
C'est d'où l'objet de ma question. Là.
Voilà, donc il y avait une certaine concurrence, mais pas que. Pieter van der Velde, il était négociant en coton et café. Charles-Auguste Marande, il a siégé au sein de la compagnie cotonnière, donc il a travaillé avec Olivier Sen. Donc ils se connaissaient. Parfois, ils avaient des liens de famille assez éloignés par les mariages, les cousins, etc. Donc, en fait, ils se connaissaient plus ou moins dans un milieu havrais, voilà, qui se côtoie. Ils faisaient partie des mêmes associations culturelles. Société des Amis des Arts, Cercle de l'Art Moderne, dont je vais vous parler, Société d'Enseignement par l'Aspect. Ils étaient très impliqués, justement, dans toutes ces associations et se retrouvaient, à mon avis, régulièrement aux concerts, au vernissage de l'exposition.
Oui,
et j'imagine très bien que le samedi ou le dimanche, ils se retrouvaient aussi dans leur petit fumoir. Par exemple, Georges Duceuil, qui est un grand collectionneur du Havre, dans sa très belle maison havraise, qui existe toujours, avait un petit fumoir où il aimait montrer les femmes de sa collection, par exemple. Mais il n'était pas le seul, parce qu'ils avaient tous... Et c'est là aussi leur esprit. Il faut imaginer à l'époque d'avoir un nu comme le nu de Marquet qui est exposé aujourd'hui dans l'exposition. Bien, il faut savoir que van der Velde avait un nu de Camoin absolument incroyable. La femme est complètement nue, voilà, à disposition sur un divan. Et ces messieurs pouvaient se retrouver à déguster un cigare, un cognac avec la collection de tableaux.
En tout cas, le résultat de tout ça, c'est le bonheur de la ville du Havre d'avoir cette richesse culturelle.
Tout à fait.
Et qu'on retrouve, bien évidemment, notamment dans votre musée. Ce qui me permet donc d'aborder le sujet qui m'intéresse également, c'est finalement toute cette richesse, c'est de ne pas la garder pour soi. C'est de la faire connaître, comme vous le disiez. Vous avez utilisé d'ailleurs tous les deux ce terme de transmettre. Et cette transmission est évidemment essentielle, et de faire connaître ces collections. Donc ma première question repose tout simplement sur cette interrogation de savoir si... comment plutôt le MUMA contribue à cette transmission des savoirs et peut-être à différents types de publics, différents profils de publics, ceux qui viennent au musée parce qu'ils ont ça dans leur ADN, si je puis dire, et puis ceux qui n'y viennent pas forcément naturellement ou parce que c'est une question de génération. Quels sont les dispositifs, je dirais, pédagogiques entre guillemets qu'un musée tel que le MUMA peut mettre en place?
Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, l'idée de transmission, enfin, c'est très important. C'est un moment d'ailleurs très important et on y arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en étant là avec vous, on est déjà dans cette idée de transmission. L'exposition est montée. Elle va vivre directement comme ça avec le public qui va et puis nous on va transmettre tout ce qu'on a accumulé en savoir, en anecdotes, en moments au public. Alors de différentes manières, on va parler de choses classiques déjà par des conférences, cycle de conférences organisées par le musée. On peut le faire également par des visites.
Bien sûr.
Des visites commentées devant les œuvres. Il va y avoir aussi, par exemple, dans l'exposition, tout un parcours de capsules sonores qui a été développé par le service de la médiation du musée, dont Marie Bazir est responsable, et qui est le premier parcours de capsules sonores créé en France. Donc c'est vraiment une nouveauté.
Ça marche comment ?
Alors c'est simple, vous avez auprès de certains chefs-d'œuvre de la donation Seth Fools des petits QR codes qui vous renvoient, en fait, que vous prenez avec votre iPhone, que vous photographiez avec l'iPhone, le QR code vous renvoie vers le site, le site internet, qui met en parole les œuvres que vous avez devant vous. Et cette mise en parole, là où l'intérêt de ces capsules sonores, c'est que cette mise en parole, elle est faite par des acteurs,
oui,
et par des gens, des acteurs, mais ça peut être aussi des chanteurs, ça peut être aussi des sportifs. Je pense notamment des cinéastes. Cédric Clapiche nous parle d'une œuvre du musée, Cécile de France également. Vous voyez, donc en fait, il y a...
Une intimité.
Parce qu'en fait, ils ne vont pas en parler de la même manière que nous. Nous, parfois, on peut être un peu barbants. On va rentrer dans les détails, on va rentrer dans des dates, dans des choses très précises qui parfois peuvent... Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font vivre les œuvres à leur manière, avec leur sensibilité, leur perception.
Et ça contribue à une démocratisation
tout à
du
fait.
Sujet pour les personnes qui s'auto-excluent, finalement.
Voilà, complètement. Et ça touche un public, justement, qui peut être éloigné du musée par la parole de quelqu'un qui va lui ressembler ou le toucher.
Ouvrir la porte, finalement.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment une chose, un exemple que je trouve merveilleux et qui est visible dans l'exposition, donc avec ces QR codes. Mais on pourrait recréer ça...
La numérisation, la digitalisation.
Tout à fait.
Les musées n'y échappent pas.
Voilà. Mais autre chose, par exemple, on parlait des femmes. Dans nos collections, on a un certain nombre d'artistes femmes. On pourrait décider de faire une exposition virtuelle de nos artistes femmes, parce qu'on n'a pas suffisamment pour créer une véritable exposition. Et on pourrait décider qu'il y a un commissaire pour cette exposition virtuelle qui viendrait faire une exposition des artistes femmes dans les musées normands. Je vous dis ça, mais voilà, il y a tant et plus d'exemples d'application et de démocratisation de l'art.
Après, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place également, des sorties d'œuvres dans les entreprises, notamment des entreprises mécènes qui sont donc partenaires du musée, et aussi vers des publics dits empêchés, donc des publics qui n'iraient pas naturellement vers le musée, ou par la force des choses. Je pense notamment des centres de pénitentiaires. Donc des sorties d'œuvres en prison, effectivement, on amène des œuvres sur place que les médiatrices commentent devant eux.
Voilà un bel exemple de transmission et savoir. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va conclure maintenant. D'abord, un grand merci de nous avoir consacré du temps.
On est
ravis de pouvoir essayer de contribuer à tout ça. Merci beaucoup Géraldine. Maintenant, on en connaît un peu plus sur le métier de directrice de musée, on en connaît un peu plus sur le métier de commissaire. Un petit mot, le GLEF de Girafe. Quand même.
Écoutez, je vous remercie sincèrement. Je suis ravi de cet entretien. J'espère que ça passionnera tout le monde. On avait quand même une dernière question. Je ne sais pas si je peux me permettre de la poser parce que c'est traditionnel, mais allez, je me lance.
T'as tous les droits. T'as tous les droits.
Traditionnellement, on demande à la personne interviewée si vous étiez une girafe, quelle girafe seriez-vous ? Alors, Géraldine, quelle girafe seriez-vous si vous deviez être une girafe ?
Alors, moi, je trouve ça.
Une grande communauté de girafes. Parce qu'on a fait quand même quelques podcasts, et effectivement, chacun se définit en portrait chinois.
Alors, c'est une bonne question, mais je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de girafes.
On a des girafes festives, on a des girafes entrepreneuses, on a beaucoup de girafes.
Je suis une girafe au long cou, comme peut-être une girafe à la Modigliani.
Très bien.
Excellent.
Parfait. Ah, Michael, tu ne vas pas échapper.
Non, pas question, j'espérais.
Non, non, non.
Michael, ah oui, j'ai réfléchi dur, mais bon. Peut-être une girafe lectrice qui doit être assez rare sur le marché. Mais...
Eh bien, écoute, c'est parfait. Un grand merci à vous tous. Merci C'était beaucoup. Passionnant. Vous allez pouvoir retrouver donc, cette interview, cette conversation que nous avons eue donc, sur Radio Girafe, www.radiogirafenormandie.fr, sur les réseaux sociaux. Un grand merci et à très vite sur Radio Girafe.
Merci à vous.
Merci.